Face à cette émotion provoquée par la décision de la Cour de cassation dans l'opinion, le gouvernement lui a décidé d'agir ce dimanche également, juste avant les manifestations. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé la présentation d'un nouveau projet de loi sur l'irresponsabilité pénale. Dans un mois, le texte sera voté par le Parlement dans le courant de l'été. L'objectif, c'est de pallier certaines failles du système juridique actuel. Pour en parler, nous sommes en ligne tout de suite avec Jean-Baptiste Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Baptiste Perrier, vous êtes directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie, hein, professeur de droit à l'Université d'Aix-Marseille également. Jean-Baptiste Perrier, l'une des failles de ce système dénoncé aujourd'hui, c'est qu'un homme qui consomme des stupéfiants en grande quantité soit déclaré pénalement irresponsable de ses actes, en l'occurrence un meurtre. Comment est-ce que c'est possible ça? Comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, il faut l'expliquer parce que il y a une incompréhension dans la décision qui ne déclare pas un homme irresponsable parce qu'il a consommé des stupéfiants. Et en aucun cas, la Cour de cassation, ni les juges avant eux, n'ont donné un permis de tuer. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il
suffit... C'est l'un des reproches qui leur a été fait par ceux qui s'opposent à cette décision.
Beaucoup l'ont dit comme cela, mais c'est un raccourci. Après, il faut comprendre l'émotion et il faut la partager aussi, celle des proches de la victime et celle de la communauté. Mais l'important aussi de bien expliquer ce que la Cour a dit et ce que la Cour a rappelé, c'est que lorsqu'une personne n'a plus le discernement nécessaire, n'a plus le contrôle de ses actes au sens du contrôle que l'on entend d'une personne responsable qui comprend ce qu'elle est en train de faire, cette personne doit être irresponsable pénalement, et c'est ce qu'ont reconnu 6 des 7 experts, donc il y a quand même une quasi-unanimité sur ce point, et la loi ne distingue pas quelle est la cause. Si c'est lié aux stupéfiants, si c'est lié à un trouble psychique inné, une schizophrénie ou autre, et d'ailleurs dans l'affaire Halimi, il semblerait que Kobili Traoré avait également une pathologie qui a été révélée par les stupéfiants. Mais c'est bien l'abolition du discernement qui conduit à retenir les responsabilités. C'est-à-dire qu'une personne qui demain consomme des stupéfiants et commet un crime atroce reste responsable pénalement dès lors que son discernement n'est pas aboli. Et ça n'a pas changé. Il n'y a pas de vide sur ce point, il n'y a pas de faille sur ce point.
La question peut-être que soulève quand même Jean-Baptiste Perrier cette affaire et cette décision de la Cour de cassation, c'est d'à la fois reconnaître un meurtre comme antisémite et de déclarer son auteur pénalement irresponsable. Ça paraît un peu antinomique, si je puis dire.
Tout à fait. C'est l'une des complexités de l'affaire, et parce qu'elle a ce caractère particulier, ce caractère atroce, c'est de voir une sorte de contradiction. Comment peut-on dire que l'acte est antisémite en même temps qu'il n'a pas voulu agir ainsi? Eh bien, c'est tout, malheureusement, les particularités, les dérives que peut connaître l'esprit humain, c'est-à-dire que sans doute l'acte lui-même s'est ancré sur un antisémitisme latent. Je ne connais pas la personne et je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est ce qui peut expliquer le caractère antisémite des faits. Pour autant, la seule question qui est posée à l'expert et au juge, c'est de dire au moment où il agit, est-ce que lorsqu'il agit, il avait son plein discernement? Et la réponse est non. Alors, c'est horrible et je ne suis pas en train de comparer, mais s'il avait dû prendre la victime, une autre victime, peu importe, mais pour un extraterrestre, la situation aurait été la même. Là, c'est sans doute lié à ces présupposés, à ces convictions qui lui sont personnelles et qui ont amplifié son délire, mais c'est bien, ce que disent les experts, il était délirant au moment des faits.
Alors, clarifier justement l'origine de ce type de délire, de ces troubles mentaux qui peuvent être présents chez un agresseur, chez l'auteur d'un crime. Est-ce que c'est ça précisément que cherche à clarifier le nouveau texte que va présenter le garde des Sceaux le mois prochain, le nouveau projet de loi sur l'irresponsabilité pénale? Parce que selon Éric Dupond-Moretti, qui l'a annoncé hier, l'idée, eh bien, c'est de combler un vide juridique justement.
Alors, je ne sais pas de quel vide parlait le garde des Sceaux. Nous, on observe en revanche qu'il n'y en a pas. Il y a deux choses. Il y a d'abord, la réponse qu'on doit apporter, que la justice doit apporter dans ce type d'affaire. Et ça n'est pas assez dit, mais il y a eu une audience dans cette affaire. Alors, c'est évidemment pas l'audience qu'attendaient les proches de la victime, évidemment pas le procès de la cour d'assises qu'on peut espérer quand on est victime soi-même. Il y a eu une audience au cours de laquelle la chambre de l'instruction, en présence des parties, en présence des proches, a reconnu que Kobili Traoré était bien l'auteur de l'acte, mais qu'il n'était pas responsable. Donc, on peut pas dire que les juges ont balayé de ce point de vue-là. Et il faut surtout dire, on peut pas dire que les juges sont antisémites non plus. Et c'est pas une décision qui est fondée sur l'antisémitisme des juges. C'est la simple application des règles de droit. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à distinguer, selon la cause de l'irresponsabilité pénale, selon la cause du trouble entre les stupéfiants et des troubles dont on ne serait pas responsable en quelque sorte? Alors, c'est sans doute la réflexion que veut mener le garde des Sceaux. Ça n'est pas ce que proposait le rapport qui lui a été remis il y a quelques semaines. Mais en tout cas, on voyait ici les difficultés, et les premières propositions de loi font apparaître ces difficultés. Une qui a été déposée, je l'évoque juste, qui qui prétendait retenir la responsabilité en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Et vous voyez que, rédigé ainsi, on responsabilise donc la personne qui a été droguée à son insu. Donc il faut prévoir la consommation volontaire. Et qu'est-ce qu'on fait alors des médicaments? Est-ce qu'on inclut ou pas les médicaments? Il y a quand même des puissants psychotropes qu'on peut prendre volontairement, parce que c'est une prescription médicale, et pour autant, est-ce qu'on est responsable? Bref, ça va être techniquement très difficile. C'est pas impossible, c'est techniquement très difficile, et moi je dis juste, aussi atroce soit les faits, ça reste très exceptionnel quand même, donc il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on veut aller aussi loin dans la remise en cause des principes pour une affaire qui, aussi tragique et terrible soit-elle, reste une exception.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Perrier pour cette analyse. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là parce que on n'a plus de temps, la pendule tourne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à la mi-journée sur RFI. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université d'Aix-Marseille et directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie.